Suivez Priorité Santé et faites un bon voyage avec Suno Assurance, qui vous garantit une assistance médicale d'urgence pendant votre séjour, ainsi que la recherche de vos bagages en cas de perte. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Igor Strauss.
Bonjour à toutes et à tous. Oncocercos, schistosomiase, ulcères de Buruli, trypanosomiase humaine africaine font partie des maladies tropicales négligées, des maladies de la pauvreté qui affectent plus d'un milliard de personnes à travers le monde, dont 40% en Afrique. Les conséquences de ces pathologies sont désastreuses d'un point de vue sanitaire, économique et social. Elles peuvent tuer, défigurer ou handicaper, et en empêchant des adultes de travailler ou des enfants d'aller à l'école, elles condamnent des communautés entières à rester dans la pauvreté. Pourtant, eh bien, certaines d'entre elles, comme la maladie du sommeil, étaient sous contrôle dans les années 60, mais en raison d'un relâchement dans la surveillance, on a assisté à une réémergence de la maladie dans plusieurs régions du continent. Il faut dire que parvenir à dépister et traiter les dernières victimes de ces maladies demande un travail de terrain coûteux, long et laborieux, mais essentiel et obligatoire si l'on veut parvenir à les éliminer. Alors, où en est-on justement? Quelles sont les maladies tropicales négligées qui pourraient être éliminées d'ici 2030, quelles sont celles qui persistent sur le continent? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité, le professeur Areski Isri, maître de conférences universitaires, chef du service de parasitologie à l'hôpital Avicenne de Bobigny, en région parisienne. Et nous serons également en ligne avec le professeur Henri Assé, chirurgien plasticien, engagé depuis 20 ans dans la lutte contre la lèpre et l'ulcère de Buruli en Côte d'Ivoire, consultant pour les maladies tropicales négligées auprès de l'OMS, ancien directeur du programme national de lutte contre l'ulcère de Buruli en Côte d'Ivoire. Et à la fin de cette émission, eh bien, nous retrouverons la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Areski Isri, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous une nouvelle fois dans Priorité Santé.
Merci de votre invitation.
Alors, ce concept de maladie tropicale négligée est apparu dans les années 2000 pour donner plus de visibilité. Alors, au début, c'était 17 maladies, puis on a rajouté 3, ça fait 20. Ces maladies ont des origines différentes, des modes de transmission différents. Comment finalement les définir et les classer, professeur?
Je crois qu'il y a déjà 3 groupes de maladies. Les maladies virales, donc elles sont dues à un virus transmis d'une manière ou d'une autre. Et puis les maladies bactériennes, comme la lèpre dont vous avez parlé, ou bien les maladies parasitaires, comme la maladie de Chagas ou la bilharziose.
Alors, comme vous êtes parasitologue, effectivement, on va s'intéresser plus spécifiquement à ces maladies parasitaires. Mais de façon plus globale, autre grande différence dans toutes ces maladies tropicales négligées, certaines sont mortelles, d'autres pas.
Oui, la plupart de ces maladies sont mortelles, sinon elles sont défigurantes, délabrantes, handicapantes. Et donc, effectivement, il y a ce moyen de les distinguer.
Ce sont des maladies de la pauvreté. On parle d'atteinte aux droits de l'homme, de l'enfant, de la femme. C'est ce que vous ressentez, vous également, en tant que médecin?
Oui, c'est surtout voilà des maladies de la pauvreté, mais aussi des maladies qu'on rencontre essentiellement dans les pays chauds et humides. Ces pays chauds et humides, justement, c'est souvent la pauvreté aussi.
Existe-t-il des traitements pour toutes ces pathologies?
Alors, il y a des traitements plus ou moins efficaces pour la plupart de ces maladies. Parfois, les traitements sont un peu plus dangereux, presque aussi dangereux que la maladie, comme c'est le cas, par exemple, pour la maladie du sommeil.
Alors ça, on va y revenir plus largement, parce qu'il y a des nouveaux traitements, justement, qui pourraient simplifier largement la prise en charge. Ça veut dire que finalement, si on le souhaitait, on pourrait en venir à bout. Les médicaments sont là.
Oui, je pense que la plupart des maladies, quand on s'y attelle correctement, on peut arriver à les contrôler, voire à les éradiquer. Mais c'est pas évident de les éradiquer. Il faut beaucoup, beaucoup de moyens quand même.
D'après l'OMS, il y a 600 millions d'Africains qui ont besoin d'un traitement contre au moins une maladie tropicale négligée chaque année. On pourrait fournir ces 600 millions de doses à des enfants? Qu'est-ce qui gêne finalement? Parce que ça fait de nombreuses années qu'on parle d'éliminer ces pathologies. Il y avait un gap qui était 2020, on n'y est pas. Maintenant, on parle de 2030.
Essentiellement les moyens. Si on regarde, moi je pense hein, essentiellement les moyens, si on regarde l'exemple du paludisme, hein, je suis désolé de le donner comme exemple, mais jusqu'à un moment, jusqu'à une certaine date, là il y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années, c'était 2 millions de décès chaque année dans le monde, et puis on a mis le paquet là-dessus, et très rapidement on est redescendu à peu près 400 000 cas par an. Vous voyez, donc quand on met les moyens, on peut y arriver. Mais il est vrai que lorsqu'il y a un réservoir animal, lorsqu'il y a un vecteur, lorsqu'il y a plusieurs facteurs, si vous voulez, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais c'est une question de moyens.
Alors vous parlez du paludisme, mais là il y a le Fonds mondial qui finance cette pathologie.
La fondation aussi.
Voilà, et les fondations. Pour les maladies tropicales, c'est plus compliqué, mais quand on sait qu'un traitement vermifuge annuel coûte 50 centimes de dollars par enfant... On se dit qu'on pourrait en faire des choses quand même, à ce tarif-là.
Oui, si vous pensez à des médicaments qu'on donne en dose unique, oui, c'est tout à fait faisable. D'ailleurs, dans certains départements français, on distribue certains médicaments tous les 6 mois, ça donne d'excellents résultats. Mais peut-on le faire partout? Alors, il n'y a pas que les moyens financiers, il y a aussi...
Moyens logistiques aussi?
Il y a la logistique et puis vous savez, la plupart, beaucoup de maladies reviennent un peu en force à cause des instabilités qu'on observe dans certains pays. Ça, il faut pas l'oublier. Parfois, la santé passe au second plan.
C'est sûr que pour un pays en guerre, par exemple,
voilà.
On a eu le cas de certains pays où voilà, certaines maladies sont réapparues.
La trypanosomose africaine est revenue en partie à cause de l'instabilité dans les pays où elle sévissait le plus.
Vous pensez à quel pays en particulier, là?
Afrique centrale. Enfin, quand je dis l'Afrique centrale, non. On va dire le Congo et tout autour du golfe de Guinée.
Alors, l'OMS recommande 5 interventions stratégiques de base pour lutter contre la charge des maladies tropicales négligées, notamment la chimioprévention. De quoi s'agit-il, professeur?
Chimioprévention, ça veut dire on donne des comprimés à des gens. Des comprimés, c'est de la chimio, hein, c'est des médicaments qui vont soit tuer les vers et les empêcher donc de passer ensuite vers le vecteur éventuellement. Et c'est de la prévention, en fait. Donc, on traite systématiquement, on casse la chaîne épidémiologique.
La lutte contre les vecteurs, c'est quelque chose qui est important?
Si on parle de la chimioprévention contre les vecteurs, c'est encore autre chose. C'est les insecticides qu'on peut utiliser pour lutter contre les vecteurs. C'est important, ça donne de très bons résultats, mais... Finalement, on arrive à des situations d'insensibilité, de résistance des insectes aux insecticides. Et on a eu beaucoup d'échecs par le passé à cause de ça.
Ah, c'est vrai?
Tout simplement, la lutte antipaludique, quand on s'est mis à lutter contre l'anophèle, le vecteur, hein, donc l'insecte, les anophèles sont rapidement devenus résistants.
Et c'est toujours le problème quand on lutte contre ce type de maladie.
C'est un exemple.
Ouais, ouais. L'approche One Health, à savoir une seule santé, on parle de santé animale, santé humaine évidemment, et santé environnementale, est-ce que ça va vous paraît être la bonne approche?
Ça, c'est sûr.
Pour l'élimination à court, moyen ou long terme de ces pathologies, c'est une évidence?
C'est une évidence. On ne peut pas lutter contre une maladie qui touche à la fois l'homme et l'animal en traitant seulement une partie. Il faut tout traiter, sinon on n'y arrive pas.
Et comment se fait-il qu'on ne s'en soit pas rendu compte avant? Cette approche One Health, elle est assez récente finalement, professeur, non?
Mais je crois que plus on avance, plus on tire des leçons du passé aussi, hein, des échecs du passé. Lorsqu'on lutte contre une maladie en s'adressant juste à un seul compartiment, si vous voulez, obligatoirement on a des échecs. Donc oui, c'est une approche récente et qui est très bien. Ça fait très longtemps qu'on parlait de traitement généralisé en quelque sorte, hein, traiter à la fois l'homme, l'animal, le vecteur, on s'attaque à tous les versants à la fois.
Oui, mais ça a encore un coup plus important et on revient au nerf de la guerre.
C'est la lutte intégrée, c'est la lutte, oui voilà, c'est assez compliqué, il faut beaucoup d'argent.
Justement, revenons à cette question du financement. Quel a été l'impact du Covid sur les financements de ces pathologies? Est-ce qu'elles ne vont pas souffrir justement de toutes les sommes qui ont été allouées à juste titre à la pandémie de Covid-19?
Question bien embarrassante, parce que le Covid déjà par lui-même, cette maladie, elle fait déjà des millions de morts. C'est des millions de morts maintenant. On parle même voire plus. Évidemment, on va mettre un maximum de moyens pour lutter contre cette nouvelle maladie. Ces moyens, il faut les enlever de quelque part. En plus, ça bloque un peu tout le monde, ça bloque toutes les autres activités, y compris celles qu'on engage dans la lutte contre les maladies négligées qui existaient déjà avant. Oui, c'est juste une complication assez catastrophique.
Le faible intérêt de l'industrie pharmaceutique est-il un problème ? Ou est-ce qu'on peut considérer que finalement, on a tous les médicaments nécessaires, on a le DNDi, l'initiative médicaments pour ces maladies, dispose des bibliothèques de molécules et qu'il y a de quoi faire. Donc est-ce un problème, ce désengagement de l'industrie pharmaceutique ou pas ?
Bah, ça a toujours été un problème. Ça a toujours été un problème lorsque l'on a des maladies qu'on peut traiter. On sait qu'il y a des médicaments qu'on peut utiliser pour les traiter. Mais ces médicaments ne sont produits que par des industries pharmaceutiques. Cette industrie, si elle n'a pas de retour, si elle n'a pas de bénéfice, elle va pas produire ce produit-là. Elle va pas le fabriquer. Ça coûte cher de le fabriquer. D'autant plus que dans les pays développés ou dits riches, il n'y a pas ces maladies. Or, ce sont ces pays qui peuvent payer. Donc, les pays pauvres ne peuvent pas payer. Voilà, l'industrie pharmaceutique ne va pas faire quelque chose qui n'est pas rentable.
Mais lors de la déclaration de Londres, le 30 janvier 2012, 13 laboratoires avaient justement donné leur bibliothèque de molécules au DNDi. Le DNDi en français, c'est l'initiative médicaments pour les maladies négligées. Ça devait être le remède miracle. On devait arriver à l'élimination de certaines pathologies d'ici 2020. Ça n'a pas été le cas.
Pas encore, mais il y a peut-être déjà des résultats. Si on regarde certaines maladies qu'on peut traiter aujourd'hui, on distribue gratuitement ou presque certains médicaments et ça donne des résultats extrêmement intéressants. L'ivermectine est largement distribuée maintenant dans beaucoup de pays. Le traitement du paludisme également est largement distribué avec beaucoup d'aide, évidemment.
Professeur Aeskizri, alors on devait prendre un premier auditeur en direct qui devait vous poser des questions. Malheureusement, les lignes téléphoniques sont défaillantes. On a du mal à le joindre. Je vais me faire son porte-parole peut-être et vous lire ses questionnements. Il s'appelle David, il est de N'Djamena. Il nous dit « J'ai 41 ans. Depuis que j'ai 8 ans, j'ai des douleurs à la vessie quand je suis au soleil, comme une sensation de picotement quand j'urine, avec des vertiges, un mal au ventre, des contractions à la vessie. » Et je dois uriner toutes les 3-4 minutes. J'ai vu des médecins, mais ils ne savent pas ce que j'ai. Ils soupçonnent la bilharziose. C'est une maladie fréquente autour de chez moi, car il y a des mardeaux. Et pendant la saison des pluies, les enfants jouent et se baignent dans les mares, les flaques d'eau stagnantes. Il a été voir un médecin, mais l'analyse de sa vessie n'a pas donné de résultats précis. Du coup, il se demande ce qu'il a, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire à David bilharziose ou pas bilharziose? Bilharziose, et puis évidemment je vous demande de redéfinir ce qu'est la bilharziose, qu'on appelle également schistosomiase, c'est une des nombreuses maladies tropicales négligées.
Oui, difficile de répondre comme ça à David, parce que la symptomatologie n'est pas du tout quelque chose de typique, ça peut être la bilharziose ou d'autres choses. Alors la bilharziose c'est quoi? La bilharziose c'est une maladie parasitaire qu'on attrape quand on va se baigner dans l'eau douce pendant la journée, aux heures chaudes de la journée. Et là, il y a des vers qui vont passer à travers la peau, qui vont ensuite aller dans la vessie pour se développer, devenir adultes. Et puis, il y a des accouplements qui se font, un vers mâle et un vers femelle. Et ce couple va migrer ensuite vers la vessie ou vers les intestins dans la forme digestive. Quand c'est la bilharziose urogénitale, comme on le dit, la femelle va pondre des œufs qui vont traverser la paroi de la vessie, tomber dans la vessie, et lorsque le sujet va uriner dans l'eau, il va éliminer ses œufs, mais il va également éliminer du sang. Donc le principal symptôme au début, c'est ça, c'est du sang, l'hématurie comme on dit. C'est vrai que le ver adulte peut vivre longtemps, plusieurs années, jusqu'à 15 ans par exemple, au niveau de la paroi de la vessie. Et quand il y a beaucoup de vers, eh bien, il peut y avoir des complications. Cette paroi va se calcifier, elle va devenir dure, comme une, on dit d'ailleurs, une vessie de porcelaine. Hein, ça finit, ça peut se terminer comme ça, tellement elle devient dure. Et là, c'est des complications. La personne, comme elle a une vessie qui ne se dilate pas, va uriner beaucoup plus souvent. Ça peut se surinfecter, il va y avoir des surinfections. Dans certains pays, ça peut donner des formes plus graves. On parle de cancer de la vessie, même si c'est pas clairement démontré. Voilà quelques exemples de ce qu'on peut avoir avec la bilharziose. Il peut y avoir d'autres symptômes, si vous voulez qu'on en parle.
Eh bien, on va en parler, mais d'abord, j'ai un petit mot sur les traitements. Est-ce qu'ils existent? Et qu'est-ce qui explique que certains ne les prennent pas? Est-ce que c'est parce qu'au début, la maladie est silencieuse, tout simplement?
Voilà, effectivement, quand on est contaminé, tout à fait au début, alors il y a des gens qui ont des symptômes, qui font une sorte, voilà, ils vont avoir des boutons et puis un peu de fièvre. Hein. Mais ensuite, c'est silencieux pendant plusieurs mois. Donc, on n'est pas malade. C'est simplement, quand on urine, il y a du sang. Donc, c'est pas... D'ailleurs, à un moment donné, pendant très longtemps... quand les garçons, à l'âge de 10-12 ans, avaient du sang dans les urines, on pensait que c'était naturel, c'était normal dans ces pays d'endémie. On pensait que c'était les règles du garçon.
Ah, on appelait ça les règles du garçon?
Voilà, carrément. Hein, on pensait que c'était les règles du garçon. Et donc, c'était pas considéré comme une maladie. C'est seulement les complications qui font que ça devient une maladie. Et là, effectivement, on prend conscience que c'est autre chose. Alors... Oui, quand on parle de bilharziose, c'est quelque chose qu'on peut traiter facilement si on fait le diagnostic.
Surtout. Et est-ce que le diagnostic est simple ou pas?
Le diagnostic, il suffit d'examiner les urines avec un microscope et on voit des œufs. Ils sont assez gros, ces œufs. Ils sont faciles à voir.
Donc, c'est pas compliqué?
C'est pas compliqué. Et puis, on peut faire de la sérologie, mais ça, c'est déjà, il faut une prise de sang. C'est autre chose. Le diagnostic est facile à faire. Nous, on en voit assez souvent. Et bon, quand on fait le diagnostic, le traitement, il est très simple. Aujourd'hui, il y a une molécule, enfin, aujourd'hui, ça fait déjà quelques années, le praziquantel, en dose unique. On donne ça, ça s'appelle le biltricide sous le nom commercial. Ça marche très bien. Quand on fait ce traitement, quand on l'applique, quand on le donne au sujet malade, il est guéri. Et non seulement on le guérit, mais ça fait ensuite du préventif parce que la personne traitée ne va plus uriner des œufs, ne va plus rejeter des œufs dans l'eau, dans l'environnement.
Et c'est ces œufs-là qui contaminent d'autres personnes, c'est ça?
Une fois qu'ils sont dans l'eau, vont éclore. Ils vont aller d'abord parasiter un mollusque. Et puis, ils vont se développer dans le mollusque, qui, lui, le mollusque, va relâcher au bout d'un mois des milliers, des millions de larves de vers qui vont pénétrer dans la peau des gens. Donc, vous voyez, il faut absolument interrompre ce cycle, et le meilleur moyen, c'est le traitement.
Mais alors, justement, c'est la deuxième maladie parasitaire dans le monde après le paludisme. Je crois que c'est à peu près 200 millions de personnes.
Plus. Comme,
plus encore, hein.
Oui, plus.
Mais alors, justement, comment l'expliquer si le diagnostic est simple, si le traitement en dose unique est simple et efficace? On en revient à notre conversation du début, manque de volonté politique, manque de moyens, qu'est-ce qui bloque finalement?
En fait, si on veut éradiquer la bilharziose urogénitale, la bilharziose digestive est un peu plus difficile. Urogénitale, c'est facile, il faut dépister tout le monde. C'est facile quand on le dit, plus difficile à faire par contre. Il faut dépister tous les enfants. Il faut le faire systématiquement, très jeune. Les enfants, voire les adultes, tous les gens qui vont se baigner en eau douce dans les pays chauds. Eh, mais dans les pays chauds, tout le monde va se baigner en eau douce.
Bien sûr. C'est d'ailleurs, ça, vous, problème. À Vicennes, vous, donc l'hôpital dans lequel vous travaillez, en région parisienne, vous voyez beaucoup de cas, vous m'aviez dit. Notamment des Maliens, par exemple, qui se baignent dans le fleuve Sénégal, des gens de Kaï.
Voilà, les gens qui viennent de la région de Kaï. Kaï est donc à l'ouest du pays, à la frontière du Sénégal. Et là-bas, il y a beaucoup d'eau. Enfin, il y a le fleuve Sénégal, déjà. Et tout autour, il y a des marigots, il y a de l'eau qui stagne. Et les gens se baignent là-bas. C'est vrai que moi, j'ai toujours une image en tête. Hein. Au Mali, des enfants qui s'amusent comme des fous dans un bassin d'eau, c'est une retenue d'eau. Vous voyez, ils plongent, ils rigolent, ils sont heureux. On ne peut pas empêcher les enfants de se baigner en eau douce. Mais on peut essayer de les dépister. On peut essayer de voir s'ils n'ont pas la bilharziose.
Mais ce serait la même meilleure façon de, voilà, d'éliminer la maladie. Vous pensez que c'est possible à... Alors, on parle toujours des ODD, des objectifs de développement durable 2030. Vous pensez que c'est envisageable, une élimination ?
Moi, je pense que c'est tout à fait envisageable de dépister et de traiter les sujets. Il faut en avoir la volonté politique. La bilharziose ne tue pas comme le paludisme, donc on n'a pas mis autant de moyens que pour le paludisme.
Écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons des maladies tropicales négligées avec notre invité, le professeur Areski Izri, maître de conférences universitaire, chef du service de parasitologie à l'hôpital, à Vicenne de Bobigny, c'est en région parisienne. Et tout de suite, direction Abidjan, nous sommes en ligne avec le professeur Henri Assé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien plasticien engagé depuis 20 ans dans la lutte contre la lèpre et l'ulcère de Buruli en Côte d'Ivoire, consultant pour les maladies tropicales négligées auprès de l'OMS et ancien directeur du programme national de lutte contre l'ulcère de Buruli en Côte d'Ivoire. Donc, l'ulcère de Buruli, hein, rappelons-le, la troisième maladie tropicale mycobactérienne la plus fréquente au monde après la lèpre et la tuberculose. Est-ce qu'elle est encore très répandue sur le continent et notamment en Côte d'Ivoire, professeur Henri Assé?
Oui, l'ulcère de Buruli, après avoir, disons, créé une flambée sur le continent africain, est actuellement en régression. Cependant, cette maladie constitue toujours une maladie tropicale négligée et un problème de santé publique.
Alors l'ulcère de Buruli continue d'inquiéter, car on ne connaît pas encore le mode exact de transmission. Est-ce qu'il y a des pistes ou des hypothèses sur son origine, professeur ?
Alors, c'est comme les maladies mycobactériennes, comme la lèpre aussi. L'origine est toujours difficile à déterminer. Actuellement, la piste que nous avons, c'est la piste par des vecteurs d'eau douce et qui peuvent transmettre la maladie. Cette piste a été bien vérifiée. Cependant, nous pensons qu'il existe d'autres modes de transmission. Et actuellement, le problème, le défi que pose le CERS de Buruli, c'est de trouver ces modes de transmission afin de pouvoir proposer une prévention.
Bien sûr. Et est-ce qu'il y a de la recherche, justement, pour découvrir ces fameux modes de transmission ? Une recherche active ?
Oui, cela fait partie donc des cahiers de charges des chercheurs de retrouver les modes de transmission afin de proposer une prévention de cette pathologie.
Alors l'ulcère de Buruli, pour ceux qui ne connaissent pas, on a des images quand même très choquantes. Ça provoque la destruction des tissus cutanés avec l'apparition de larges ulcérations qui peuvent toucher tout un membre du corps jusqu'à l'os. Est-ce que on a les traitements aujourd'hui, professeur Henri Assé ?
Ben, fort heureusement, nous avons un traitement qui est efficace. C'est une association d'antibiotiques et qui est donc disponible pour les malades gratuitement sur le terrain.
Bon, ça c'est la bonne chose. Est-ce que les gens connaissent mieux la maladie et voilà, est-ce qu'ils vont consulter rapidement ou est-ce qu'il y a encore de la stigmatisation, des fausses croyances autour de cette maladie ?
Alors, pour rebondir sur les croyances, il faut dire qu'en Afrique, la majorité des pathologies sont expliquées par, des aspects démoniaques, etc.
La sorcellerie, notamment.
La sorcellerie. Et ce, d'autant plus que l'ulcère va donc reproduire l'image réelle de la sorcellerie avec ses ulcères dévastateurs. Ce que je voulais dire, c'est que le terme ulcère de Buruli est un peu impropre parce que la maladie ne commence jamais par un ulcère. Et donc, ce que nous avons fait, c'est de faire en sorte que la population, les communautés, soient sensibilisées sur la connaissance des premiers signes de la maladie.
Alors, quels sont-ils, justement ? Quels sont-ils ?
Alors, les premiers signes, c'est, il y a trois formes, en fait. Il peut s'agir de nodules, ce sont des petites boules qu'on va trouver sous la peau et qui sont donc mobiles. Ensuite, la deuxième forme, ce sont des plaques, c'est toute une zone de la peau qui va devenir indurée, comme si on avait glissé une plaque sous la peau. Et la troisième forme, c'est un gonflement diffus. Alors, caractéristique importante, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de fièvre. C'est ce qui fait que, justement, les gens, ils ne viennent pas consulter et ils attendent que l'ulcère s'ouvre d'abord. Parce que ces trois formes vont évoluer vers une complication commune qui est l'ulcère. Et c'est pourquoi le terme ulcère me paraît impropre, parce que la maladie ne débute jamais par un ulcère. L'ulcère est une complication.
Mais malheureusement, c'est à ce stade-là que les patients viennent consulter trop souvent, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Comme vous venez de le dire.
Que la maladie est indolore. Comment voulez-vous que des personnes qui sont dans des zones isolées, loin des structures sanitaires, aillent consulter pour une pathologie qui est indolore. Voilà le problème.
Bien sûr. Parlons un petit peu de prévention. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout simplement suivre certaines règles d'hygiène, c'est ça ?
Oui, il faut des règles d'hygiène en matière de santé. Sur le plan général, il faut toujours l'hygiène et l'assainissement. Cependant, en matière d'ulcère de Buruli, nous n'avons pas de prévention primaire. C'est-à-dire que nous n'avons pas de vaccin, nous n'avons pas la possibilité de donner, des traitements préventifs, et ce d'autant plus qu'on ne met pas encore tout à fait le mode de transmission. Ce que nous faisons, c'est de faire en sorte que la connaissance de la maladie soit dans la communauté et que les gens viennent consulter dès les premiers signes, c'est-à-dire les signes avant l'apparition de l'ulcère. Donc c'est là que nous mettons, le maximum d'action, pour la prévention et c'est pour le dépistage précoce qui est donc la clé de la prise en charge de ces malades.
Professeur Henri Assé, est-ce qu'une élimination de la maladie d'ici 2030 vous paraît possible, envisageable ou pas du tout?
Je pense qu'avec les progrès que nous avons obtenus en 20 ans, par la sensibilisation, le dépistage précoce, la mise à disposition d'un traitement gratuit, nous avons de fortes chances de pouvoir arriver à une élimination de cette maladie.
Oh bah écoutez, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Eh bien écoutez, je vous remercie infiniment, professeur Henri Assé. Je rappelle que vous êtes chirurgien plasticien, engagé depuis 20 ans dans la lutte contre la lèpre et l'ulcère de Buruly en Côte d'Ivoire et ancien directeur du programme national de lutte contre l'ulcère de Buruly, toujours en Côte d'Ivoire.
Elle est tombée malade de 2002 en 2003. Vraiment, ça n'allait pas. J'ai essayé ici avec les infirmiers des cliniques, aller à l'hôpital central. On m'a prescrit des ordonnances. Je paye, mais à 20. La maladie ne fait que s'aggraver. Elle a maigri. On dirait une branche d'arbre. Arrivé à Daloa, l'agent qui est avec vous, Sédou, il m'a signalé. Il dit, bon, de la manière, elle est là. Il faut aller au trypano d'abord pour aller la diagnostiquer, voir. Effectivement, je suis arrivé là-bas, j'ai suivi ses conseils. Alors, on vient me présenter le résultat. Le docteur me dit, pourquoi j'ai retardé avec elle jusqu'à ce stade-là? J'ai dit, bon, là, c'est pas ma faute parce que moi, je ne connais pas la maladie. Il dit, bon, il n'y a pas autre maladie sur votre femme, ce n'est que la trypano. On va la soigner. Ah, moi, ça m'a fait grand plaisir. On l'a hospitalisé 24 jours, parce que c'était vraiment grave. Jusqu'à le jour où on l'a libéré, j'ai mes parents en Daloa, on allait là-bas, j'ai dit, bon, tu vas habiter ici en attendant pour suivre le rendez-vous qu'on t'a donné là. Moi, je vais aller à Bono. Elle est restée là-bas. Moi, j'ai fait 4 mois, je suis allé là-bas. Mais je n'arrivais plus à reconnaître ma femme, tellement elle a grossi. Devenue une très belle femme. Bon, vraiment, j'ai dit que, vraiment, on t'a soigné.
Je reviens un petit peu en arrière sur les symptômes, donc. Vous avez vu votre femme devenir de plus en plus malade. Mm-hmm. Donc, elle avait beaucoup maigri. Mm-hmm. Mais au niveau de son esprit, vous savez, des fois, la maladie du sommeil, ça peut créer des troubles du sommeil, une certaine violence.
C'est ça. Merci beaucoup. Je ne voulais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais je vais vous détailler. Quand elle est tombée malade, elle n'arrivait plus à dormir. Souvent, elle est couchée dans le lit, dans la maison. Tu entends des voix, on dirait qu'elle est en train de causer avec quelqu'un. Elle n'est pas tout seule. Et puis, ses yeux-là étaient devenus autre couleur. En la voyant même physiquement là, tu serais désespéré. Parce que le docteur m'a dit, après le résultat, tu avais une semaine. Si elle ne venait pas dans la semaine là, ta femme là, elle allait devenir folle. Et cela, il m'a dit, trypano, il y a plusieurs qualités. Il y a pour dormir seulement. Il y a d'autres aussi. Il te fait veiller à tout moment. C'est ça qui rend l'homme dingue. J'ai dit Dieu merci. En fin de compte, elle était devenue gênante pour moi. Mais c'est ma femme, qu'est-ce que je vais faire?
Gênante pour vous? Et comment elle était perçue par les autres du village? Est-ce qu'il y avait de la stigmatisation, des railleries?
C'est ça. Elle était perçue par mes voisins. Celle-là, elle ne va pas debout. Elle attend son jour. Les gens même avaient peur d'elle. Quand c'est lui qui vient pour aller la saluer dans la maison, même si c'est une femme, elle ne veut pas rentrer. Parce que pour eux, s'ils rentrent, c'est condamnation. Bon, ces petites critiques-là, c'était partout à ce temps-là dans mon entourage.
Et les voisins alors, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Eux qui n'osaient pas entrer dans la maison quand elle était malade, quand ils la voient travailler au champ, qu'est-ce qu'ils disent?
Les voisins, ce qu'ils disent maintenant, là, on l'appelle Soukro. Soukro veut dire le revenant. Parce que personne n'était sûr qu'elle allait se réveiller. Non, moi-même, j'avais perdu l'espoir. Ça nous a étonnés tous.
C'était Zoumana Kone, un planteur de café cacao de Bonon, dans l'un des derniers foyers de la maladie du sommeil en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a réussi à éliminer la maladie du sommeil comme problème de santé publique. J'aimerais une réaction à ce témoignage très fort, professeur Areskizri. Il y a un peu tout.
Moi, je trouve ce témoignage formidable. Il explique clairement à la fois la maladie, mais aussi la façon dont elle est perçue dans l'entourage. Oui, c'est un témoignage très très fort et très très intéressant. Vraiment, c'est exceptionnel.
Trypano, il y a plusieurs qualités, disait Zoumana Kone. Effectivement, la maladie évolue différemment. On l'appelle maladie du sommeil parce que certains dorment, mais pas que.
Alors, la trypanosomose africaine
la fameuse THA,
est due à un parasite flagellé qui est transmis par une piqûre, la piqûre de la mouche tsetse, une glossine, une grosse mouche, qu'on ne trouve que, disons, en Afrique, autour de l'équateur. Allez, on va résumer plus facilement entre le 15e sud et le 15e nord. Voilà. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était très répandu. Et puis, au début du siècle dernier, il y a eu des équipes mobiles qui se sont déplacées pour lutter contre, dépister. On l'avait presque éliminée, cette maladie. Et elle revient après les années 60.
Après les indépendances, exactement.
Voilà, après les indépendances des pays où il n'y avait plus les moyens de la France et des pays, colonisateurs. Alors, comment elle se présente? Quand on est piqué, alors il y a deux formes déjà principales. Celle de l'Afrique de l'Ouest et puis celle de l'Afrique de l'Est.
Il y a Gambiense et Rhodésiense, c'est
voilà,
ça?
Rhodésiense et Gambiense. Gambiense, c'est donc en Afrique de l'Ouest.
C'est 98% des cas de maladie du sommeil à peu près, c'est ça?
À peu près. C'est une forme qui passe un peu inaperçue au début. Parce que
asymptomatique au début.
Qui est asymptomatique. Et puis, petit à petit, lorsque la phase sanguine, lorsque le parasite qui était dans le sang va aller au niveau du système nerveux, là vont commencer à apparaître des symptômes. Alors, on peut avoir des troubles neurologiques, des troubles, voire psychiatriques. Donc, d'abord, il y a une inversion du cycle du sommeil. La personne, elle peut dormir dans la journée et être extrêmement agitée la nuit. C'est pour ça qu'on dit la maladie du sommeil, parce que dans la journée, la personne est complètement KO, avec de la fièvre. Et il peut y avoir des signes psychiatriques. La personne peut devenir agressive, elle peut devenir amorphe, il y a toutes sortes de symptômes qui peuvent apparaître. Alors que dans la forme rhodésiensée, à la partie est de l'Afrique, là c'est autre chose. Là c'est rapidement la forme neurologique. Il n'y a pas de partie silencieuse pratiquement. C'est tout de suite la forme, la fièvre avec les symptômes neurologiques dont on vient de parler.
Alors, il existe des traitements, ça c'est la bonne nouvelle, et des traitements qui sont beaucoup plus faciles à prendre. C'est plus forcément la ponction lombaire, le goutte à goutte, etc. Ça c'est la bonne nouvelle concernant la THA.
Alors, la ponction lombaire, c'est surtout pour le diagnostic, ça se fait encore.
On n'a pas pour trop... confirmer des cas.
C'est pour confirmer, parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de moyens. C'est vrai qu'on peut faire la sérologie. La sérologie, elle est maintenant de plus en plus fiable, mais c'est pas encore le top. Donc la ponction lombaire reste un élément clé pour le diagnostic de certitude. Les traitements, jusqu'à il n'y a pas longtemps, les traitements étaient extrêmement toxiques. Qui faisait parfois plus de dégâts que de biens. C'est vrai.
Alors,
que l'industrie pharmaceutique...
On va rappeler, effectivement, à l'époque, c'était l'arsobal, donc
voilà,
un
dérivé
de l'arsenic et du bal qui permettait de soigner ceux qui avaient été victimes du gaz moutarde. Donc, on avait quoi, 10-20% de patients qui décédaient avec ces traitements.
Exactement.
Donc, les gens ne voulaient plus se faire traiter, évidemment.
Symptômes, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts de l'industrie pharmaceutique. C'est des produits dérivés, notamment de produits de beauté, qui ont été le plus utilisés, qui donnent maintenant de meilleurs résultats. On peut traiter. Encore faut-il faire le diagnostic. Et ce témoignage que vous avez passé montre bien toute la difficulté. Les gens qui attrapent la maladie du sommeil ne sont pas forcément à côté d'un centre de santé. Il n'y a pas forcément un médecin à côté. Et donc, le diagnostic passe inaperçu jusqu'au moment où on a des signes neurologiques. Mmh. C'est ça le drame de cette maladie. En Afrique de l'Ouest, en tout cas, c'est sûr.
Mais en Côte d'Ivoire, on l'appelle la maladie du bout de la piste. Voilà, c'est parce que les derniers patients sont vraiment très très loin, il faut aller les chercher. Allez, il nous reste deux petites minutes, professeur, on va aborder une autre maladie pareille impressionnante, la filariose lymphatique, communément appelée l'éléphantiasis. Je vous laisse expliquer de quoi il s'agit et les symptômes, parce que pareil, c'est très invalidant, très stigmatisant pour ces populations qui en sont victimes.
Oui, alors, la filariose lymphatique, les filarioses lymphatiques, mais il y en a une principale, celle qui est due à un ver qu'on appelle Wuchereria bancrofti, est une maladie très, très répandue dans le monde, où on a aujourd'hui à peu près, disons, 40 millions peut-être de sujets qui sont symptomatiques, qui ont des symptômes, c'est-à-dire qui ont des édèmes, qui gonflent. Alors, l'éléphantiasis, c'est lorsque on a, par exemple, il y a deux gros types d'éléphantiasis. Hein. Chez l'homme, c'est l'hydrocèle. Hein,
l'hydrocèle, donc c'est les énormes testicules. On a tous vu les images impressionnantes.
C'est les bourses qui augmentent de volume parce qu'il y a une rétention à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que les vers sont au niveau des vaisseaux lymphatiques, ils bloquent le retour et donc on a une distanciation, ça augmente de volume régulièrement. Et puis vous avez les autres qui sont également très visibles, plus précocement peut-être, c'est l'éléphantiasis au niveau des membres, souvent les membres inférieurs.
Les grosses jambes,
mais vraiment on parle de jambes d'éléphant. Ça peut être les deux jambes, ça peut être une seule. Donc vous avez une personne avec une énorme jambe et l'autre qui est pratiquement normale. Voilà, tout ça c'est dû à un ver qui se développe au niveau des vaisseaux lymphatiques. Et ce ver est transmis en général par la piqûre d'un moustique, simplement un petit moustique. Parfois des moucherons, ça peut arriver, mais principalement des moustiques.
Malheureusement, il n'y a pas de traitement. Quand on a ces grosses jambes, c'est à vie, c'est ça ?
C'est trop tard.
La seule façon de se soulager, c'est de se laver, de se masser les pieds. Parce que un autre symptôme, c'est pas vraiment un symptôme, mais l'odeur est terrible aussi.
Évidemment, l'odeur est terrible parce que évidemment la personne ne peut pas non plus se laver, elle suinte. Le traitement à ce stade-là, c'est trop tard. On peut traiter avant parce qu'il y a de très nombreux cas asymptomatiques. On peut faire par contre de la prévention. Et ça, c'est génial parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens de prévention. Nous avons un département français qui distribue tous les 6 mois de l'ivermectine et ça évite justement d'en arriver à ce stade d'éléphantiasis. Ça permet même d'envisager l'éradication de la maladie.
Bien, écoutez, merci infiniment pour toutes ces explications, professeur Ayaskizri. Je rappelle que vous êtes chef du service de parasitologie à l'hôpital Avicenne de Bobigny en région parisienne. Et on passe à présent à la chronique nutrition avec vous, Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Alors, pouvez-vous nous expliquer la mesure qui a été prise au Sénégal par le gouvernement concernant les bouillons cubes, Stéphane Besançon ?
Alors, aujourd'hui, les bouillons cubes ou les cubes alimentaires sont consommés massivement dans toutes les préparations culinaires des différents pays sur le continent africain, même si leur composition actuelle entraîne des effets assez néfastes sur la santé. Et pour tenter d'infléchir cette consommation, l'État du Sénégal vient de prendre une mesure qui est assez historique. En effet, dans la loi de finances rectificative du budget 2021 du pays, le Conseil des ministres a adopté une mesure de taxation qui s'élève à 25% du prix d'un bouillon cube. Alors, cette mesure touchera tous les cubes alimentaires, qu'ils soient importés ou fabriqués localement, et quelle que soit leur composition. C'est vraiment une taxe synthétique. Alors, au Sénégal, un cube coûte en général 25 francs CFA, ce qui fait une somme assez modique de 0,04 euros de taxes, mais si on met ça à l'ensemble de la population sénégalaise, à quasiment 16 millions de personnes, on a des recettes fiscales qui vont s'élever à quasiment 25 milliards de francs CFA, soit 38 millions d'euros, ce qui est vraiment colossal. Et on a un texte de loi qui explique que cette mesure a été prise par la composition des cubes, l'excès de sel, etc., etc., mais qui malheureusement ne dit pas vraiment que ces cubes sont nocifs pour la santé.
Alors, quels sont les effets nocifs, justement, sur la santé, Stéphane, de ces cubes alimentaires que les Sénégalais s'arrachent, finalement ?
Alors, en premier lieu, il faut rappeler la composition de ces cubes. Hein. Tous les cubes contiennent des quantités qui sont relativement faibles en protéines, en sucre et en graisse, mais qui contiennent des quantités énormes de sel. Alors, un cube fabriqué en Europe, qui pèse autour de 10 grammes, contient quasiment 5 grammes de sel. Les cubes qui sont fabriqués en Afrique sont un peu plus gros, ils pèsent aux alentours de 12 grammes et contiennent à peu près 8 grammes de sel, sachant sachant qu'il faut rappeler que les recommandations de l'OMS, c'est 5 grammes de sel par jour. Donc un seul cube alimentaire apporte quasiment la quantité maximale journalière de sel de notre alimentation, sans compter tout l'apport qu'il y a à côté, comme de le pain, ou le sel qui est dans le pain, le sel rajouté dans les aliments, le concentré de tomate ou bien d'autres. Donc ça va provoquer une surconsommation de sel qui a des conséquences très néfastes pour notre santé. Alors ça va être la favorisation de l'apparition ou l'aggravation d'une hypertension, qui peut avoir des conséquences très graves si elle n'est pas contrôlée, puisqu'elle va favoriser les maladies cardiaques comme les infarctus du myocarde, les maladies du cerveau comme les accidents vasculaires cérébraux, ou encore les maladies du rein comme l'insuffisance rénale.
Et est-ce que ces mesures fiscales dont on parle fonctionnent toutes de la même manière, Stéphane Besançon ?
Alors cette idée de taxer les produits salés, elle vient directement des recommandations de l'OMS qui encourage les États à adopter des taxes depuis quelques années sur les boissons sucrées en suivant l'exemple de la taxe soda du Mexique. Alors au Mexique, une évaluation de cette taxe réalisée 2 ans après son application a démontré des effets très positifs avec une réduction moyenne de 6% de l'achat de boissons sucrées la première année et une réduction de plus de 9% de la deuxième année et en parallèle une augmentation forte de la consommation d'eau de boissons et d'eau. Et les recettes générées par la taxes au Mexique ont permis de monter un fonds de prévention qui a permis, par exemple, d'équiper toutes les écoles publiques de fontaines à eau. Donc, c'est très intéressant. On a aussi l'exemple de la France, hein, où la taxe sucre a été un peu modifiée pour faire des paliers taxés en fonction de la quantité de sucre et, du coup, d'avoir un dialogue réel avec les industriels pour qu'ils améliorent le produit. La taxe qui est mise en place au Sénégal, si on revient à celle-là, du coup, c'est un premier pas très important, mais le dispositif pourrait être encore renforcé en fixant des montants de taxation en fonction de la qualité nutritionnelle des cubes, ce qui permettrait du coup de dialoguer avec les industriels pour améliorer le contenu, mais aussi d'avoir un financement, aujourd'hui il tombe dans le budget de l'État, d'avoir un financement qui puisse tomber dans un fonds de prévention et qui puisse permettre de financer des actions spécifiques de prévention.
Mais est-ce que ces mesures fiscales suffisent ?
Alors non, oui et non, on va faire une réponse un peu mixte. On sait qu'aujourd'hui, quand c'est un dialogue simple avec les industriels, comme le sel, réduire le sel dans le pain, etc., ça fonctionne très rarement. Donc les mesures contraignantes sont un peu obligatoires pour vraiment faire changer les industriels. Maintenant, de l'autre côté, une taxation simple sans modification du comportement des consommateurs fonctionne pas forcément non plus. Il faut vraiment le croiser des deux. Et pour les cubes, par exemple, l'idée, c'est de remplacer ces produits, que les consommateurs les remplacent par les produits traditionnels, les épices traditionnelles qui servaient à vraiment agrémenter les sauces, comme par exemple le datou ou le sumbala ou d'autres épices traditionnelles, l'ail frais, l'oignon, et aussi en parallèle la possibilité de préparer traditionnellement, classiquement des cubes en faisant des bouillons avec de la viande ou des bouillons de légumes qu'on va après mettre dans des petits carrés de conservation congelés qui vont permettre d'avoir des cubes qui seront quasiment pas salés. Donc il faut un mélange des deux, il faut oui des mesures fiscales très claires des gouvernements et à côté un changement de comportement des consommateurs pour améliorer sa consommation.
Merci beaucoup, c'était la chronique nutrition de Stéphane Besançon. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Demain, nous parlerons des hémorroïdes. Nous attendons toutes vos questions, vos réactions au 33 1 84 22 75 75. Ophélie Lassène, Louise Calédec, Didier Bleu, Laurent Hérault, Igor Strauss. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de la Radio Mondiale et nous vous disons à demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui vous garantit un bon voyage avec une assistance médicale d'urgence pendant votre séjour ainsi que la recherche de vos bagages en cas de perte. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.